Premier titre de l'Arrache-cœur 241, ce roman de Romain Verger intitulé Grand Ours et sous-titré Roman païen est paru aux éditions Kidam. De Romain Verger, nous avions présenté son premier roman qui s'appelait Zone sensible chez le même éditeur, qui était déjà un texte assez déroutant et qui entremêlait le devenir poulpe de l'humanité, hein, de cet individu qui, installé dans un centre de thalassothérapie, voyait son corps se transformer peu à peu jusqu'à s'amollir, jusqu'à obtenir une souplesse incomparable et une mobilité des membres qui lui permettait des acrobaties spectaculaires. Donc c'était un texte déjà qui jouait énormément sur le fantastique. Grand Ours poursuit cette veine et reste dans une thématique assez hybride. Il entremêle deux récits qui sont structurés en trois parties. La première partie nous emmène dans le paléolithique, où on découvre le personnage d'Arcas, qui, au sortir de sa grotte, découvre l'absence des autres membres de sa tribu, et notamment de sa compagne, en quelque sorte, Héra, et des deux fils qu'elle lui a donnés. Et un manteau de glace et de froid s'est abattu sur le pays, et il décide d'attendre le retour de ses compagnons. Ils étaient 12 en tout, il reste seul, et à partir de ce moment-là, son corps va évidemment subir de plein fouet et le froid et la faim, puisque les réserves ne sont pas inépuisables, jusqu'au moment où il va devoir se décider à sortir de la grotte et à traverser ce pays assez effrayant désormais, qu'il n'est plus qu'un manteau de glace. Donc on a le périple de cet individu, qui évidemment est entraîné dans des rêveries où se mêle l'imaginaire lié à son souvenir de sa tribu, mais également à sa faim, à son attente d'alimentation. Et un jour, sur le chemin, il croise un ours assez spectaculaire, d'une taille impressionnante, et il tombe évanoui. Et lorsqu'il se relève, il n'a pas été blessé ni quoi que ce soit par l'ours, il est resté seul, et cet animal devient une sorte de totem, il l'obsède, il veut le retrouver, ça devient le but ultime de son périple. Il comprend que d'ailleurs cet ours est lié le destin de l'ensemble des gens avec qui il vivait. Et effectivement, il va finir par arriver dans une grotte dans laquelle il retrouve un ensemble de restes humains qu'il attribue pour lui à ceux qui ont disparu. Et devant la bête allongée dans sa bauge, il va s'accoupler, il va s'approcher d'elle, et puis dans un texte assez halluciné et hallucinant, s'accoupler avec elle, en même temps qu'elle le mutile, puisque les griffes s'abattent sur son dos, ils détruisent totalement le corps de ce personnage. Donc ça, c'est la première partie, et la seconde nous amène à notre époque, où un autre personnage qui s'appelle Machefer travaille comme modeste employé à la galerie d'anatomie comparée du Jardin des Plantes, où il est chargé de la surveillance de ces magnifiques squelettes. Alors il n'est pas comme le personnage de Javier Tomeo, ce n'est pas un scrupuleux qui cherche les vertèbres manquantes, mais il aspire à atteindre la même pureté que ceux qu'il a devant lui, et donc se prive volontairement de nourriture. Alors on a une espèce d'ébauche de son enfance pour essayer de comprendre, mais il n'y a pas du tout de psychologie chez Romain Verger. Les explications ne suffisent pas, elles sont parcellaires, elles sont manquantes. Mais on suit là aussi la volonté d'extinction chez ce personnage de Machefer, qui note scrupuleusement dans un carnet, et cela ponctue le texte comme un leitmotiv, son poids, le menu qu'il a dévoré au cours de la journée, le nombre de calories qu'il a perdu à cause de ses activités. Et il note également son IMC, et quelques phrases qui lui viennent en tête, quelques réflexions par rapport à son désir, à son cheminement spirituel de tension vers le squelette. Alors, les deux textes pourraient résonner ainsi, ils commencent déjà à le faire, mais on va voir surgir dans ce texte deux personnages féminins, puisque Machefer habite dans une maison pavillonnaire de banlieue qui est détenue par une propriétaire, Anna, qui a décidé de couper la maison en deux grâce à une mince cloison derrière laquelle il l'entend vivre. C'est une vieille femme, et il vit donc dans la deuxième partie de la demeure, et principalement au sous-sol qu'il a aménagé pour ses besoins. Donc elle déjà occupe un peu son existence, parce que par les bruits parasites il ne cesse quasiment d'être avec elle, enfin de vivre avec cette femme qui n'a personne autour d'elle, qui est veuve, sans enfant, et qui a décidé de lui léguer l'ensemble de ses biens. Et un autre personnage va également surgir, Mia, qui est une femme assez effrayante, une sorte de monstre, enfin une géante qui vient régulièrement chez lui. C'est une voisine, mais il ne sait absolument pas où elle habite. Elle vient régulièrement chez lui avec des paniers garnis de nourriture. Et là, ils vivent une forme érotique très particulière de dévoration de la nourriture, mais pas par la bouche, mais par le vagin. Enfin, ils jettent dans ce vagin, qui se pourlèche les lèvres grâce au clitoris, la nourriture qu'elle a amenée. Il n'y a jamais eu d'autres approches sexuelles, enfin, rien ne s'est produit, mais c'est une sorte de rituel qui s'est instauré entre eux, et qui va aboutir de façon assez mystérieuse et étrange à l'arrivée d'un enfant. Un jour, elle débarque chez lui, elle est un peu plus enflée encore que d'habitude et lui annonce qu'elle va accoucher. Et effectivement, un enfant sort de cela, mais qui n'est pourvu que d'une immense bouche, ni yeux, ni nez, ni oreilles, rien. Il n'est que cette bouche dévorante qui appelle constamment à la nourriture, qui est un cri permanent. Et Machefer, évidemment, voit sa vie basculer dans la nécessité de s'occuper de cet enfant et d'essayer de le nourrir, hein, de lui apporter ce dont il a besoin. Il doit donc quitter pendant un instant son travail. Il se fait discret, il disparaît totalement, il n'appelle même plus la galerie d'anatomie. Et à ce moment-là, la voisine, puisque Mia a disparu après avoir laisser l'enfant, elle disparaît du texte et ne revient jamais. La voisine va projeter ses besoins maternels sur cet enfant et va venir s'en occuper avec Machefer. Voilà, donc je ne chercherai pas, moi, à essayer d'interpréter le texte, parce que je crois qu'il a de multiples directions et elles sont ouvertes à toutes les lectures possibles et imaginables. Ce qui m'intéresse en tout cas énormément chez Romain Verger, au-delà de son univers, hein, qui est quand même assez fascinant, enfin, c'est la qualité de sa langue qui est vraiment extraordinaire, qui est d'une richesse incroyable et qui en même temps sait parfois aussi se laisser contaminer par des registres un peu plus contemporains. Alors c'était déjà présent dans Zone Sensible, mais ça apparaissait plus dans les prémices du texte, au moment où le personnage était encore professeur, et donc on avait l'évocation de sa vie dans la classe, etc. Partie que j'avais trouvée la moins réussie du texte. Ici, les contaminations sont plus faciles, enfin sont plus habilement disséminées dans le texte et jouent de manière très très intéressante avec les ruptures de registre. Et puis surtout, c'est vrai que on sent quand même chez lui une interrogation fondamentale sur les mutations, mais en tout cas les rapprochements, les contaminations, les hybridations qui peuvent se faire. Bon, dans Zone Sensible, c'était très clair, hein, le liquide envahissait peu à peu l'univers de ce personnage. Ici, on est beaucoup plus dans le froid, indépendamment de la période glaciaire qui est évoquée dans le paléolithique, même chez Machefer, dans le texte contemporain, on sent une espèce de froid permanent, même si c'est pas du tout évoqué d'un point de vue saisonnier. Et puis il y a effectivement le lien avec la normale, l'animalité, la monstruosité, petit côté Eraserhead aussi, hein, ce bébé qui arrive, qui n'est qu'une bouche et qui hurle, et dont on ne sait pas vraiment ce qu'il va devenir. Et parallèlement à cela, dans le sous-sol où il vit avec cet enfant, avant de reprendre son travail, puisque l'intervention d'Anna va lui permettre de mieux gérer son quotidien, on va dire, se mettent également à apparaître au sol des racines. Alors il se souvient à ce moment-là d'une plante que lui avait offerte Anna et qu'il n'avait pas réussi à maintenir en vie et qu'il avait dû jeter quelque part. Et c'est comme si cette plante commençait à envahir, mais par ses racines beaucoup plus que par le haut, l'ensemble de l'habitation. Et petit à petit, les racines créent une forme de jungle dans le sous-sol. Il doit se faufiler et l'enfant joue évidemment énormément, puisqu'en plus sa croissance est extraordinaire, il grandit très vite. Assez rapidement, d'ailleurs, pour commencer à voyager dans la maison même de Machefer, son père, mais aussi pour ensuite partir chez Anna. Enfin, et le texte va culminer dans un mouvement assez fascinant, enfin, de mélange de réalisme et en même temps de pur imaginaire. On ne sait plus très bien si Machefer rêve, si ce qui se passe se déroule effectivement, ou si on assiste à une forme assez particulière de spiritualisation, enfin quelque chose de très très étrange. Je vais pas trop en dire parce que je crois qu'il faut vraiment entrer dans le texte et le parcourir pour arriver jusqu'à ce point final. Roman païen me semble avoir une intonation assez intéressante à creuser aussi, parce qu'effectivement on sent le paganisme qui parcourt l'ensemble du texte, ne serait-ce qu'avec cette présence de l'animalité, et en même temps il y a un mouvement de spiritualité très particulier, puisque le personnage de Machefer se purifie véritablement par son abstinence alimentaire et se rapproche de plus en plus d'une forme christique mais extrême. Et cette assimilation avec le Christ, elle est nommément citée dans le texte et elle aboutit à une forme de mise en scène finale devant un public. Enfin, c'est quelque chose d'assez intrigant. Je ne veux pas m'aventurer plus loin parce que je pense moi-même que je suis assez pour l'instant désarçonné par le texte et incapable d'en déterminer l'ensemble des directions. Enfin, la quatrième de couverture se termine sur ces deux questions. Enfin, compte en partage ces deux personnes que 35 000 ans séparent. Qui sait si nous ne gardons pas la mémoire organique et mimétique des terreurs ancestrales. Voilà, donc mais ça me paraît être une des pistes, une des interrogations possibles du texte, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et en tout cas, c'est vrai que les résonances sont vraiment riches et intéressantes entre ces deux univers. Il y a des pages d'une beauté assez somptueuse et la langue est vraiment magnifique dans l'ensemble du texte. Alors peut-être plus encore dans la partie paléolithique parce que le paysage permet cet envol de la langue et la confrontation d'Arcas avec les restes de ceux qui ont formé sa tribu est un passage véritablement impressionnant. De même que le moment où il bascule dans les bras, si l'on peut dire, les pattes de cet animal et s'y laisse peu à peu entraîner jusqu'à s'oublier totalement dans cet accouplement monstrueux. Et c'est vrai que cette partie-là, véritablement, est un point d'orgue dans le texte. Même si la suite ne démérite absolument pas, le caractère peut-être plus contemporain est plus lié à une narration avec des personnages, etc. Alors qu'Arcas est seul face à l'univers, retrouve une tension peut-être un peu moins élevée que dans les toutes premières pages du texte. Mais c'est véritablement un très beau livre, un très beau texte, il est extrêmement court aussi, et qui confirme l'intérêt qu'on peut porter à Romain Verger depuis que nous avons lu Zone Sensible. Voilà, Grand Ours, roman païen de Romain Verger aux éditions Kidam.